Salut, bienvenue dans Feeling Good. Été 2022, on a l'occasion de créer un podcast. Mais de quoi on parle ?
De musique,
de féminisme,
de voyage,
d'autisme,
de protection des
animaux, de l'actu au GSA sur l'avortement,
de jeux vidéo,
de santé mentale,
ou d'écologie.
Trop d'idées, trop de sujets. Il faut faire un choix. Écologie, féminisme et jeux vidéo, c'est les sujets dont on a le plus envie de parler. Feeling Good, c'est un podcast où l'on questionne des personnes sur comment elles vont bien dans leurs activités et leur militantisme. Bonne écoute.
Salut, c'est Mélia,
Keina
et Camille.
Et bienvenue sur Feeling Féministe, l'épisode 2 de la mini-série Feeling Good. Le podcast où on parle de féminisme, d'assaut féministe et d'avortement en France et aux USA. Dans l'épisode précédent, nous parlons d'écologie. Le saviez-vous ? Il existe une branche du féminisme appelée écoféminisme. On vous en donne une définition. Contraction des mots écologie et féminisme, ce terme souligne que la destruction de l'environnement et l'oppression des femmes reposent sur un même système de violence et de domination. On s'est posé une question : comment les gens définissent le féminisme ? Alors, on est descendu dans la rue. Tu te rappelles, Keina, on était en ville, on était à Limoges, il faisait chaud.
Ça a été compliqué d'enregistrer les gens. On est en été, donc il y a beaucoup de touristes, donc beaucoup de refus, parce que les gens ne parlaient pas français. Mais on a quand même trouvé un bon public.
Feeling Good, une mini-série de podcasts.
Épisode 2, Feeling Féministe. Avec Camille, Mélia, Elian et Kaïna.
Alors, on aimerait savoir, c'est quoi votre définition du féminisme ?
Attendez, que je me concentre.
C'est juste que de laisser la femme faire ce qu'elle veut, sans donner son opinion si on ne l'a pas demandé. Et voilà, c'est tout.
Ouais, voilà, lutter pour avoir des droits et... et une société qui soit plus juste.
C'est des personnes qui protègent les
droits. Cherchent l'égalité entre les droits des hommes et des femmes et de leur place dans la société.
Ouais, voilà.
Bah, c'est de vouloir l'égalité entre les êtres humains. Voilà, ma définition.
Alors pour moi, le féminisme, c'est un mouvement pluriel. C'est-à-dire qu'il y a différents courants du féminisme. Moi, le courant du féminisme que je défends, c'est un courant inclusif qui a pour objectif de déconstruire les rapports de domination et d'inclure le maximum de personnes possible.
C'est lutter contre le patriarcat qui est oppressant autant pour les femmes que pour les hommes. Pour moi, c'est lutter pour que chaque personne, peu importe son genre, son sexe ou autre, se sente bien et ait les mêmes droits que peut n'importe qui dans la société.
Les deux dernières personnes que vous avez entendues, c'est Clémentine, bénévole à l'association IL basée à Bellac, et Angèle, de l'association Les Affolés de la Frange à Limoges, à qui on a pu poser plus de questions. Feeling Good, une mini-série de podcasts enregistrée en juillet 2022, en pleine canicule. Épisode 2, Feeling Féministe.
Bonjour, nous sommes le 20 juillet et nous sommes à la rue Chidé à Limoges. Aujourd'hui, nous accueillons Clémentine de l'association IEL. Je m'appelle Mélia. Keina va continuer après. Et il y a Camille qui enregistre. Voilà.
Est-ce que tu veux bien nous présenter ton association, s'il te plaît ?
Donc, IEL, donc c'est un acronyme qui signifie Information, Écoute, Lien, Entraide et Soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc on est une association toute jeune. On a déposé nos statuts en mars ou en avril 2021, si je dis pas... Non, 2022, pardon. On a été créé à la suite d'une marche qu'on avait fait en novembre 2020 à Bellac, qui avait été, c'est nous toutes qui avions ça, un mouvement partout en France pour qu'on marche en hommage aux victimes de violences sexistes et sexuelles, et notamment des femmes mortes sous les coups de leurs compagnons. Et donc, moi, je suis étudiante en communication, donc à l'époque, j'avais réalisé les flyers pour cette marche. Et à la suite de ça, on s'est rendu compte que dans le nord du département, donc de la Haute-Vienne, il y avait pas grand-chose, en fait, qui était mis en place. Par exemple, il n'y a pas de permanence du planning familial à Bélac. Donc, c'est la ville où on a, pour l'instant, implanté. Du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque cruel d'aide pour ces personnes-là. Et donc, on a décidé de monter une association avec plusieurs personnes de tout âge et de tout horizon confondu. Il y a cette difficulté, je pense, pour les victimes de violences en milieu rural qui est tout le monde connaît tout le monde. Et du coup, il y a un espèce de silence généralisé parce que... c'est le pharmacien, donc vous comprenez bien qu'on va rien dire. Et du coup, c'est vrai que c'est complexe aussi de faire réaliser des fois aux victimes que c'est pas normal ce qu'elles vivent et qu'il faut qu'elles parlent. Parce que malheureusement, autant en ville, il y a beaucoup d'associations et tout. Donc des fois, on est un peu plus informés. Il y a des grosses campagnes qui sont mises en place par certaines mairies et tout ça. Et bien, la campagne, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Enfin, moi, en tout cas, qui habitais à la campagne, j'ai jamais eu de gens qui sont venus me voir en me disant « Tu sais que j'ai jamais eu ça, on n'a jamais vécu... » ça n'a jamais été une grosse discussion, en tout cas. Et du coup, c'est vrai que c'est complexe en milieu rural, des fois, de faire entendre nos voix et d'arriver à briser un peu cette chaîne du silence qui s'est installée depuis des fois 30, 40, 50 ans. Donc c'est vrai que c'est la difficulté, je dirais.
J'avais ton âge, il y a encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage. Alors apprends à faire avec, rien n'est acquis vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider, même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné. Écoute, j'ai pris quelques notes.
J'ai toujours vécu dans... Heureusement, j'ai eu cette chance-là. Ma famille, en général, ça n'a jamais été un sujet tabou, les féminismes, les droits des femmes. J'ai un papa qui est profondément féministe, et qui m'a toujours inculqué à moi et à mes sœurs. On est trois filles, en plus, nous. Donc, d'être des femmes indépendantes, de jamais dépendre de qui que ce soit, de jamais se laisser marcher dessus par qui que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu des parents très... très engagée. Ma mère a été victime, elle, de violences dans sa vie. Donc, ça a toujours été... J'ai toujours une mère qui m'a dit de jamais dépendre d'un homme à aucun moment. Ou d'une femme, d'ailleurs, de jamais dépendre de qui que ce soit. Et d'être... de jamais se laisser marcher dessus. De jamais se faire violenter par qui que ce soit. C'est peut-être bête à dire, mais c'est pas une question qui s'est posée pour moi. En fait, c'est évident de s'engager. Et même si c'est pas de s'engager comme moi je le fais, c'est rien que des fois de relayer des choses sur les réseaux sociaux, rien que d'aller marcher quand il y a la Journée internationale du droit de la femme, toutes ces choses-là, c'est des choses qui... Un engagement, peu importe la valeur et l'ampleur qu'il a, pour moi, est important. Et du coup, c'est la première inspiration, c'est mes parents. Et après, pour citer des femmes célèbres, je dirais quand même Olympe de Gouges, évidemment, dont j'ai lu la biographie très tôt. Simone Veil, qui, malgré des fois quelques... Il y a des choses où je ne suis pas toujours en accord avec elle, mais je ne pourrais jamais... renier tout ce qu'elle a fait. Et si aujourd'hui, nous, on a encore cette chance, contrairement aux États-Unis, d'avoir un droit à l'avortement, qui des fois est compliqué aussi, par exemple en milieu rural, on est loin des hôpitaux et du coup, c'est pas toujours facile d'accès, on n'a pas toujours envie d'en parler à ses parents. Et c'est vrai que c'est encore... l'avortement, il est accessible en France, on a cette chance-là. Pour moi, il n'est pas encore accessible à 100% pour des jeunes femmes... des très jeunes femmes qui, des fois, ne peuvent pas en parler à leurs parents. Et pour moi, elles ne sont pas forcément toujours très bien accompagnées. Donc ça, c'est aussi un combat que j'aimerais mener. Mais Simone Veil, évidemment, pour le droit qu'elle nous a donné. Après, en femme beaucoup plus actuelle, parce que là, quand même, j'ai cité des gens qui ne sont plus de ce monde, pour tous, à part mes parents. Mais du coup, je dirais... Lady Gaga, je trouve que c'est une chanteuse très inspirante et une femme très très inspirante qui pour moi représente vraiment beaucoup de choses dans le sens où on l'a jamais vraiment vu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas souvenir là de rattacher un homme. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de femmes qui sont connues dans ce milieu-là où c'est « Ah oui, mais c'est la femme de, la compagne de machin, mais elle a fait ci, elle a fait ça. » Je trouve que c'est une femme hyper inspirante là-dessus parce qu'elle s'est débrouillée toute seule, pour le coup. En termes de féminisme, c'est pas vraiment le même féminisme, mais Léna Situation, parce que pareil, une femme qui a réussi à son jeune âge à créer une carrière aussi importante que la sienne, moi ça m'inspire, parce que je suis partie du principe que ma carrière je la construirai toute seule et j'ai pas besoin d'hommes là-dessus pour ça en tout cas, donc c'est vrai que c'est des inspirations à ce niveau-là. Et puis après, bah, toutes les femmes pour moi qui sont engagées de près ou de loin dans ces luttes-là sont des femmes qui sont inspirantes.
Qu'as-tu ressenti lors de l'annonce de la Cour suprême des États-Unis sur l'arrêt de Roe v. Wade le 24 juin 2022
Évidemment, j'ai été profondément choquée que la première puissance mondiale actuelle puisse interdire un droit qui me paraît nécessaire, parce que chaque personne devrait pouvoir disposer de son corps comme il ou elle l'entend.
Comment fais-tu pour prendre soin de toi ou aller bien quand tu vois ce genre d'actu ?
Eh ben, c'est pas facile parce que en tant que je suis quelqu'un d'assez sensible, on va dire, donc je prends beaucoup ça à cœur et donc forcément des situations comme ça me font peur, m'angoissent, pour moi, pour mes petites sœurs aussi, qui sont encore petites, pour les femmes qui m'entourent. Et je me dis que prendre soin de moi, je ne sais pas, j'essaye des fois de faire un peu abstraction et de me dire que je vais me battre pour ces choses-là, moi, à mon échelle, mais très souvent, notamment moi, juste en venant ici, tu te fais siffler, tu te fais accoster, alors que t'as rien demandé, il est 9h du matin, t'as envie d'être tranquille, et c'est comme ça. Et bah, des fois c'est triste, mais des fois je suis complètement détachée parce que je m'y suis faite. Je me dis bon, c'est la vie finalement, c'est dommage parce qu'on ne devrait pas penser comme ça, et j'aimerais ne pas réfléchir comme ça, mais il y a des moments où je suis tout à fait... Il y a des fois où ça me révolte profondément, et puis il y a des fois où je me dis un de plus, un de moins, je ne verrai pas la différence, quoi. Donc voilà, ça dépend un peu des jours.
Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous. C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous. Après tout, qui créait les codes et les tabous? Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout? Souvent, les futurs génies sont mauvaises à l'école. Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles. Alors en classe, si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop. Ou alors ouvre-la bien. T'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse. Les popus du collège sont les premières à devenir des cassos. Regarde pas les autres, leurs conseils à la con. Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison. Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial. Spécial c'est suffisant, pas besoin de la jouer originale. Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus cool. Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défoule. Entoure-toi bien de gens qui t'aiment. Regarde seulement ceux qui te donnent et pas ceux qui te prennent. Petite, tu as le temps, petite. Petite, prends de l'élan. La vie, c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement. Tu monteras des projets qui te casseront la figure. Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs. Tu veux devenir patronne? Alors deviens patronne. Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne. C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet. Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer. Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps. Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant. D'avoir dit pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le style de personne qui te rend malheureuse.
On se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de Limoges. Il fait très très chaud, on est le 19 juillet. Et on est donc dans une salle climatisée. C'était une vraie délivrance quand on est rentré dans la bibliothèque. Et nous accueillons Angèle de l'association Les Affolés de la Frange.
Bonjour, merci de l'invitation déjà. Donc moi je suis Angèle, animatrice coordinatrice pour l'association Les Affolés de la Frange, affolés-e-e-s. On est une association qui existe depuis 2017 sur Limoges, mais on intervient dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et notre objectif, c'est de recréer du lien social bienveillant entre les gens. Donc notre association, elle intervient et elle a créé des ateliers d'autodéfense féministe et populaire. Donc c'est de l'autodéfense verbale, physique et environnementale. Dans la partie environnementale, c'est tout ce qui est juridique, sociologique, psychologique. Comment naît une violence, comment elle se construit, comment elle se reproduit, et du coup comment on peut l'anticiper, la déconstruire. Voilà, notre objectif, c'est l'éradication des violences, et pour cela, il faut donner des outils aux personnes pour qu'elles aient des clés pour sortir des schémas, puisque du coup, on est tous dans des schémas de domination. Donc, notre objectif, c'est bien de déconstruire ces rapports de domination entre les femmes, les hommes, entre les femmes et les femmes, les hommes et les hommes, entre les adultes et les mineurs. Donc, voilà.
Créer une asso féministe, est-ce que c'était plus compliqué que créer une asso qui n'est pas féministe ?
Alors, je dirais que créer l'association en elle-même, c'est pas compliqué. Voilà, c'est un papier envoyé à la préfecture, on vous enregistre, voilà, vous payez, je crois que c'est 45€, un truc comme ça, pour les frais de parution au journal officiel. Donc ça, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est faire vivre l'association derrière, et notamment sur la question des agréments, obtenir des autorisations, sur la question des financements aussi, et tout ce qui va suivre derrière au rapport institutionnel. Voilà, parce qu'on sait qu'on va bouleverser les codes, on sait que souvent on est vu comme des radicales, voilà, et que du coup, ben, notamment intervenir en milieu scolaire, par exemple, les établissements sont un peu timorés, voilà, sur le fait de nous faire intervenir. Alors que notre discours est complètement dans l'inclusivité et dans justement le vivre ensemble. Baser des nouveaux rapports sociaux, ça ne veut pas dire détruire par le feu tout ce qui existe déjà, quoi. Voilà, détruire sans construire derrière, ça ne sert à rien. Expliquer aux gens les rapports de domination, ça bouleverse certes l'intellectuel, l'essence même de notre éducation, etc. Mais si on donne de nouvelles bases, ben, en fait, on avance ensemble. Et ça, c'est notre objectif. Par contre, on ne peut pas dire que les choses nous sont facilitées. Voilà, si je dois donner des exemples, là, on a demandé l'agrément jeunesse et éducation populaire depuis 2020. On n'a toujours pas vraiment de réponse. Voilà, on a demandé à être déductible des impôts, donc reconnu d'utilité publique, etc. Depuis 2020, on vient de recevoir la réponse vendredi que c'est positif après un deuxième appel. Voilà, donc il a fallu aller à Bordeaux, se justifier en entretien, démontrer qu'on n'était pas sur une politique de séparatisme, etc. etc. Donc faire vivre une association féministe au quotidien qui a pour objectif de toucher le grand public, c'est difficile. Voilà, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Et nous, notre choix stratégique, ça a été de dire notre bureau aujourd'hui est constitué essentiellement d'hommes, alors qui n'ont pas de pouvoir particulier, mais par contre qui sont là pour servir la cause, qui sont nos alliés. Et donc on sait que administrativement, quand un technicien, une technicienne administrative voit que c'est un nom d'homme dessus, bah, les dossiers passent plus facilement. Donc autant se servir aussi des préjugés qu'a notre société en notre faveur quand on les connaît pour réussir à débloquer certaines choses.
Comment fais-tu pour prendre soin de toi ou aller bien ?
Déjà, je suis pas seule. Voilà, le fait d'être dans une association, d'être plusieurs, ben, ça permet de trouver de la force, de trouver de l'énergie. Ça permet de s'organiser aussi pour avoir une réponse collective, publique, et se dire que ben on est des combattantes. Donc du coup, on se laissera pas faire. Le fait d'aller bien, je sais pas si c'est qu'on va bien, mais en tout cas, on va pas mal. Voilà. Et voilà, je pense que c'est surtout le fait de réussir à être ensemble et d'avoir des perspectives collectives qui m'aident à tenir le coup. Ouais. Nous, on vend pas du rêve aux gens, on dit pas que les violences elles vont disparaître, même quand on vient aux ateliers d'autodéfense, etc. Par contre, on change notre perception de ces violences. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est plus. Nous, on n'utilise pas le terme de victime, par exemple, on utilise le terme de personne agressée. Parce que victime, c'est un statut social dans lequel on nous plonge quand on est face à une violence et dans lequel on n'est pas en capacité de répondre. Voilà. Et nous, on ne dit pas qu'on est des petites choses fragiles qui ne sont pas en capacité de répondre. On est des personnes agressées, donc du coup, on est des personnes qui sont en capacité de se défendre, de réagir et donc de déconstruire ce rapport à la violence et surtout de changer notre rapport à ça. Le fait d'être enfermé dans un statut, ça ne nous aide pas à aller mieux, ça ne nous aide pas à avancer, au contraire. Le fait d'être personne agressée, ça met une action derrière et ça veut dire qu'on peut avoir une réaction d'autodéfense. Voilà.
Merci Angèle de nous avoir parlé de ton féminisme et de l'association Les Affolés de la Frange.
Le 24 juin 2022.
Au sommaire ce soir, aux États-Unis, cette décision probablement historique puisque la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Les sages reviennent sur l'arrêt.
Aujourd'hui, la Cour suprême a retiré un droit constitutionnel qui était déjà reconnu.
Ce recul social entériné aujourd'hui par ces juges supposément les plus sages du pays scelle effectivement une nouvelle division. Une division géographique.
La Cour suprême des États-Unis a rendu son jugement le 24 juin 2022 et révoque Roe v. Wade. Les États sont désormais libres de définir la politique relative à l'avortement dans leur juridiction.
Bienvenue dans le podcast Feeling Féministe.
Qu'est-ce que vous avez ressenti face à la décision des États-Unis par rapport au droit à l'avortement ?
Non mais ça c'est aberrant, c'est du retour en arrière quoi. Simone Veil, elle s'est pas battue pour nous, pour rien. Donc nous, on doit se battre pour garder nos droits. Donc non, la femme, elle a le droit de choisir si elle veut avoir un enfant ou pas.
C'est horrible de se dire qu'on a pris tellement d'années déjà à avoir ces droits-là et que du jour au lendemain, tout peut partir. C'est terrible.
Mmh. Voilà. Puis sachant aussi qu'à ce qui paraît, c'est à cause de la religion là-bas qu'ils ont été forcés à revoter cette loi alors que... Enfin, c'est tellement de femmes qu'on en a besoin, surtout aux États-Unis, ils doivent tout payer. C'est...
Bah, surtout qu'elles vont quand même continuer l'avortement, voilà, mais de façon illégale et dangereuse. Voilà. Du coup. Donc, pas fou. Je suis outrée, enfin, j'ai pas de mots, je sais pas comment on peut en être encore là, vraiment. Enfin, ça me révolte, évidemment.
Et puis ouais, c'est de la colère pour toutes ces femmes qui vont devoir galérer et qui vont certainement pas passer des bons moments non plus. Et un peu de reconnaissance quand même, parce que nous, on a quand même cette chance-là pour l'instant, du coup. Mais espérons que ça dure.
Et comment ça se passe en France ? Nous avons recueilli le témoignage de Hélène, qui a eu recours à un avortement la semaine dernière. Écoutons maintenant un extrait qui sera lu par Keïna.
J'ai choisi les préservatifs et la méthode de contraception du cycle naturel, où je calcule mes jours de fertilité. J'ai eu une relation vaginale avec mon compagnon, qu'on appellera C. Sur un jour de fertilité, et bim, je suis tombée enceinte. Je suis donc allée chez mon docteur, en pensant que je pouvais gérer ça avec lui, mais non. Il m'a prescrit un premier rendez-vous au centre d'IVG de l'HME de Limoges. Premier rendez-vous à 8h45, je suis ressortie à 12h environ. J'ai eu un premier contact avec la personne de la planification que j'avais eue au téléphone. J'ai donc expliqué pourquoi j'étais là. On m'a demandé mes antécédents médicaux et tout ce que j'avais consommé en médicaments ou autres les 6 derniers mois. Ensuite, j'ai eu l'échographie avec une interne au top. Ensuite, une grosse attente de nouveau en croisant les bébés et les futures mamans. Pas cool du tout. Moi, je pensais à ce que j'avais choisi de faire en regardant des mamans et des enfants. C'était pas simple et j'ai failli partir. Une heure après environ, j'ai eu le dernier rendez-vous avec la sage-femme qui recueille le premier consentement. Je pensais que j'aurais mes cachets à ce moment-là, mais non. J'ai fixé un autre rendez-vous avec elle la semaine d'après et elle m'a expliqué le déroulement de la méthode d'avortement et m'a donné les médicaments nécessaires. Enfin, il faut bien insister pour moi sur la nécessité absolue de préserver ce droit. C'est vital, je trouve. Si je n'avais pas eu ce choix, je m'en serais voulu toute ma vie, je pense. Je suis à l'arrache dans ma vie. Je ne prends pas vraiment soin de moi et cette grossesse aurait pu être une catastrophe. J'ai imaginé mettre au monde un bébé mal formé avec une dépendance développée dans mon ventre. J'ai imaginé des trucs de fou et cette nuit j'en ai encore cauchemardé. Mon comportement et mes choix de vie n'impactent que moi. Je trouve horrible l'idée d'imposer cela à un être qui n'a rien demandé. C'est donc précieux ce droit. Il faut se battre bec et ongles pour le conserver. Et merde aux bien-pensants, grenouilles de bénitier et autres connards qui te diront que certaines filles en abusent et n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Je les emmerde tous, vu la violence du bordel, vu ce que tu vois partir de toi, ce n'est en rien une partie de plaisir. On a mal, on regarde une coquillette partir dans les égouts, on sent des machins énormes sortir de nous, c'est franchement dur. Je crois que si quelqu'un me reparle de confort, ben, je lui casse la tête.
Ma chère, ma
Barbara Pravi, écho avec le témoignage lu par Keïna. Melia, qu'est-ce qui te met en colère, toi ?
Moi, ce qui me met en colère, c'est de ne pas pouvoir sortir, par exemple, avec les habits que je veux, sans avoir de réflexion de mes proches ou même des gens dans la rue. Par exemple, je sais que c'est pour moi, que c'est pour me protéger, mais ma maman me dit « Ah, mais si tu sors comme ça, va y avoir des gens dans la rue qui vont mal te regarder, qui vont te parler, t'aborder. » Ou la dernière fois, j'ai mis un t-shirt où on voyait un peu ma poitrine et ma mamie m'a dit « Ah, on devine ta poitrine, tu vas te faire embêter, quoi. » Et je trouve ça choquant, en fait. Pas qu'on me dise ça, pas que mes proches me disent ça, ça c'est normal, mais pas vraiment, genre, entre guillemets. Parce qu'ils pensent à moi, ils s'inquiètent. Mais en fait, je trouve ça pas normal qu'on en arrive là, en fait, qu'on doit... avoir peur de sortir dans une certaine tenue parce que des gens vont venir nous aborder ou... Enfin, ça en est arrivé à un point où on ne peut même plus sortir sans se poser de questions.
Elian, c'est quoi ton opinion ? C'est quoi qui te met en colère ?
Moi, ce qui me met en colère, c'est que même si je ne suis pas directement concernée par ces choses, je les observe, mes amis, je vois toujours que ça arrive. C'est des choses qui sont dans leur quotidien et... Et forcément, du coup, pour les hommes, c'est aussi facile à ignorer parce qu'on ne le vit pas forcément directement. Ce qui me met en colère, c'est qu'on ne remarque pas les différentes façons dont les droits des femmes ne sont toujours pas égaux à ceux des hommes. On se dit « Oh, mais elles peuvent faire un compte en banque maintenant, elles peuvent faire tout ça, elles sont indépendantes, les femmes, elles sont dans les voitures, elles conduisent. » Mais il y a toujours des inégalités. Des deux côtés d'ailleurs, il y a toujours de grosses inégalités et les gens se voilent beaucoup la face. Il ne faut pas baisser sa garde. Les droits, ils ne sont pas acquis. Les droits, on se bat pour les avoir.
Il m'est arrivé un truc la semaine dernière. J'étais au supermarché, à la caisse. Il y avait un vieux monsieur devant moi. Et personne n'avait rien demandé à personne, surtout pas à lui. Il a regardé un peu autour de lui et il annonce comme ça. « Ah, toutes ces femmes, ça m'excite !» Et là, j'étais super choquée. Et c'était même pas fini. Il a ensuite regardé la caissière droit dans les yeux en lui disant « Vous aussi, mademoiselle, vous m'excitez. » Là, j'étais outrée. J'étais tellement outrée, tellement vraiment choquée qu'en fait, j'ai rien fait. Et je suis un petit peu en colère à propos de moi-même parce que j'ai pas réagi alors que en fait, c'est un geste qui est passible de poursuite. Sachez-le, auditeurs, auditrices, que si vous êtes témoin de ce genre d'événement, vous pouvez aller vers la victime et lui dire « Je suis témoin, tu as le droit d'aller porter plainte et si tu veux le faire, je souhaite, j'aimerais, je suis disponible pour t'accompagner au commissariat et témoigner. » Cet homme, il a grandi dans une société qui lui a dit « Vas-y mec, fais-le, il n'y a pas de souci. »
Ça me rappelle aussi des choses qui me mettent en colère, justement que on apprend aux filles comment il faut se comporter, mais jamais aux hommes, enfin aux garçons, et que les filles, elles doivent être modestes, elles doivent sourire, elles doivent tout ça, mais les hommes, on leur dit jamais, on leur dit, c'est aux filles, on dit, fais attention dans la rue, les hommes, on leur dit pas, enfin, on leur dit moins, ne va pas harceler les filles dans la rue, et c'est très, ça se voit beaucoup au quotidien, voilà, quand quelqu'un se fait violer, et qu'on lui dit, il a besoin de s'entraîner, c'est un garçon. Voilà.
Je suis absolument choquée par cette phrase.
C'est... arriver avec un proche, alors...
Je déteste quand, à l'école, on n'a pas le droit de mettre, par exemple, des débardeurs parce qu'on voit les épaules et que ça peut exciter les garçons. Apprenez à vous tenir.
Les garçons qui sont des bêtes sauvages.
C'est pas à nous de changer. Où j'ai eu déjà des réflexions en mode « Ah, mais... il t'a fait ça, c'était un adolescent, c'était un garçon, c'est normal. » Non, c'est pas normal. Et toi qui m'as dit ça, je suis en colère contre toi. Et vous laissez pas faire. Parce que j'ai été tellement choquée que j'ai rien dit à cette personne-là. J'ai pas eu d'argument sur le moment. Et après, chez moi, je pense à ce que j'aurais pu dire dans toutes les situations, ce que j'aurais pu faire. Mais en fait, si on reste paralysé, c'est normal. Et c'est pas à nous de changer, mais aux personnes malveillantes. Par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qui se passe là, dans les témoignages ou les trucs comme ça, ça se passe pas que dans la vie de tous les jours, dans la rue, enfin partout où on pense. Ça se passe aussi sur les réseaux, en virtuel, sur les jeux vidéo, etc. D'ailleurs, dans l'épisode 3, nous retrouvons Lucas qui va parler des jeux vidéo. Et Lucas, qui est là d'ailleurs.
Bonjour Mélia, effectivement, dans mon épisode, vous allez entendre parler de toxicité dans les jeux vidéo.
Merci Lucas.
Merci d'avoir écouté notre épisode Feeling Féministe.
Bisous. Au revoir.
Ciao.
With our friends, you know, there's a very fine distinction between what will be platonic and stuff like love and feelings. But I can tell that you realize how I feel about you. It's almost like you just want the attention. So why you gotta play like that? I thought you didn't like conflict. And why you gotta act like that when you know you get my hopes up? Yeah, I know deep down that what I want won't happen ever. But just the hopes that we could spend another night together. Keeps you on my mind. But girl, it's not too late for you to come back and say that together.